commencerai d'emblée par une citation que vous avez sûrement ou peut-être déjà entendue. Elle est connue, qui provient de Luther. Je sais que vous êtes plutôt Calvin ici, mais j'ose quand même. Mais ils étaient quand même proches d'idées, donc je peux me permettre. Qui disait, si je prie pas un jour, moi je le ressens. Si je prie pas deux jours, toute l'Église s'en ressent. Et si je prie pas trois jours, toute l'Allemagne s'en ressent. Et ça nous lance directement dans mon message ce soir qui a pour titre « Prier, prier jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand prier ? Le matin, est-ce que je prie ? Parce que des fois, on prie sous la douche. Est-ce que je prie jusqu'à que la douche soit finie ? Dans ma voiture, est-ce que je prie jusqu'à que le feu passe au vert ? Est-ce que je prie à l'arrêt jusqu'à que le bus arrive ? Et le soir, par exemple, est-ce que je prie pour le réveil jusqu'à que je m'endorme ? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que la prière n'est pas, avant ce qu'elle est. On dit souvent, on le répète, on le redit que la prière, elle n'est pas un monologue, mais que c'est un dialogue. Ah, ça avance pas comme je voulais. Mais je vais quand même faire en sorte que ça marche, parce que c'est sympa si... Bien, John, tu peux aller voir. Il va suivre avec le truc. Je poursuis. La prière, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Alors, on l'a peut-être, c'est assez cliché, on l'a déjà entendu. C'est tellement connu qu'on apprend bien ce point, mais moi, j'ai vraiment envie quand même d'y passer ce soir. Et pourtant, c'est vraiment un fondement qui est indispensable à mentionner. On ne peut pas aborder le sujet de la prière sans mentionner vraiment ce fondement-là. Pourtant, on y est vite, parce que prier sans un vrai dialogue, ça va, on y est, c'est très simple. Il suffit de parler à Dieu, de dire tous nos besoins ou nos sujets de reconnaissance, et puis on y va, on débite, on parle, on parle, on parle. Et à la fin, si on évaluait notre temps de parole, je ne sais pas pour ceux qui connaissent par exemple le foot, il y a un temps de possession de balle. Quelle équipe a le plus souvent la balle ? Alors des fois, c'est du 50-50. Mais dans notre temps de prière avec Dieu, c'est quoi notre possession de parole ? Est-ce que c'est du 50-50 ou du 90-10 ou du 95-5 ? Des fois, c'est peut-être du 100% zéro. On parle, on parle, on parle, merci Seigneur, alléluia. Et puis voilà. Et la prière, c'est tellement plus que ça. C'est parce que Dieu, il n'est pas juste notre psy, puis nous, on est sur notre canapé, puis on parle, puis à la fin de notre temps de prière ou de la séance, on dit « Alléluia, merci Jésus », puis on se sent un peu mieux, puis c'est bon. Il y a plusieurs façons de faire pour prier. Bien sûr, je pense qu'il n'y a personne qui est comme ça ici, peut-être seulement à Neuchâtel. Mais vous avez le chrétien tire à l'arc, qui a plein de flèches, puis il tire une flèche après l'autre, et c'est des belles prières l'une après l'autre. Mais quand vous êtes dans un groupe, vous arrivez des fois pas à prier parce qu'il aligne toutes les prières l'une après l'autre. Ou bien vous avez le chrétien lanceur de poids, alors lui, sa prière, c'est du lourd. Alors il attend avant de la lancer. Mais alors quand il la lance, c'est souvent très fort, très loin et très puissant. Vous avez aussi le chrétien mitraillette, ta 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 ta, et ça y va très vite. Et suivant quoi, ça peut être bien. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'une réelle rencontre avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'un partage ou d'un vis-à-vis pour prier comme ça. On peut juste balancer nos prières, ce qui nous pèse, ce qui nous réjouit, ce qu'on désire. Et puis en fait, la prière monologue, elle fait l'économie d'une réelle rencontre avec Dieu, d'un partage, d'un vis-à-vis. Il suffit de prier comme si tu envoyais un message à Dieu. Puis tu lui dis ce qui te pèse, ce qui te réjouit, puis voilà. Tu vois, Seigneur, et ceci, Seigneur, puis encore ça, Seigneur. En plaçant Seigneur, des fois le mot Seigneur à chaque respiration, au moins on ne manque pas d'air. Puis on sait au moins à qui adresser la prière. Bref, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, ce n'est pas non plus une liste de besoins. Je ne suis pas contre les listes de prières, mais ça nous permet peut-être des fois de ne pas oublier quelque chose, comme la liste au supermarché. Pas oublier d'acheter, je sais pas, du persil, des amandes moulues. Alors on a noté, on a notre liste. Puis comme ça, on n'oublie rien. Puis quand on vient devant le Seigneur, on n'oublie au moins rien. Peut-être que l'un ou l'autre ici est chrétien, parce que peut-être que votre grand-maman avait une liste de prières puis a prié tous les jours pour vous. Donc ça peut être utile. Je suis pas en train de mépriser ça du tout. Mais souvent, ça pourrait être que cérébral, parce qu'il suffit de sortir nos sujets qui nous viennent, et puis on n'est pas forcément obligé d'être poussé par l'esprit ou d'être inspiré, ou même d'avoir une rencontre avec Dieu sur le moment. On peut davantage prendre les sujets un petit peu mécaniquement, comme ça nous vient. Un peu, on appelle ça une to-do list, une liste des choses à faire. Et puis on la donne au Seigneur. Alors je trouve que c'est déjà pas évident pour nous-mêmes quand on a une liste de choses à faire. Puis là, en plus, c'est pas juste pour nous-mêmes, on l'a dit au Seigneur. Puis on dit, ah, tu vois, Seigneur, je te prie pour mon collègue, blablabla, puis je te prie aussi pour mon voisin, puis tu vois mon conjoint, puis tu vois mon travail, puis tu vois mes finances, et puis on y, puis voilà, puis il y a une chose après l'autre, puis on attend que Dieu y coche, puis qu'il réponde. Ça, c'est un peu la liste de prières. Mais moi, si j'étais le père, j'aimerais un autre contact avec mon enfant, que juste qu'il vienne tout le temps, quand il vient me parler, c'est chaque fois pour des demandes, et puis aussi des petits sujets de reconnaissance, et puis après, une fois qu'il a dit tout ça, il part. Je pense que vous aussi. Bref, la prière, c'est pas une liste de besoins. La prière, c'est pas non plus une thérapie désanxiogène, pour inventer un mot. On a un problème, et puis on prie jusqu'à qu'on soit soulagé. Ah, maintenant je me sens mieux, j'ai pu prier. Alors oui, dans la prière, il y a un aspect où on dépose ce qui nous pèse devant le Seigneur. Ça, c'est vrai, ça c'est top, ça c'est bien. Mais si notre vie de prière, c'est partager au Seigneur ce qui nous pèse, et Dieu sait s'il le faut et si je le fais, ben le but, c'est pas juste qu'on se sente mieux après, puis qu'on se sente allégé. La prière, c'est pas juste une thérapie pour qu'on soit moins stressé, moins angoissé, parce qu'on a pu tout dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai ça, 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 ça aujourd'hui, puis tu vois ça. C'est bien, ça peut être un peu un calme anti-stress, oui, mais je crois que c'est plus que ça. C'est un dialogue. Il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui a envie de nous parler. Mettez-vous à la place de Dieu. Si votre enfant il vient juste avec ce qui lui préoccupe, ben, vous aimeriez un autre contact que ça. Et une fois que son enfant, votre enfant a tout pu dire, et puis il s'en va parce qu'il est soulagé. Bref, la prière, c'est en partie, oui, déposer ses fardeaux au Seigneur, c'est vider son sac, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? Parce que c'est bien beau juste de dire qu'est-ce que c'est pas. Je ne suis pas venu pour ça ce soir. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est, entre autres. On ira aussi plus loin après. Et moi, la personne qui m'inspire le plus dans la Bible au sujet de la prière, ce n'est pas Eutychus, parce que lui, il écoutait un message sur le bord de la fenêtre, en pleine réunion de réveil, et il tombe par la fenêtre parce qu'il s'endort. C'est ni les disciples d'Emmaüs qui ont prié, déversé leur tristesse devant Jésus pendant plus de 2 heures en marchant avec lui, sans même réaliser que Jésus était là, sans réelle rencontre. Ça, c'est un peu la prière monologue, où ils disent tout ce qui leur pèse, tout ce qui leur pèse, tout ce qui leur pèse, ils ne réalisent même pas que Jésus est là. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont vraiment inspirantes, j'en mentionnerai quelques-unes encore après, mais avant tout, moi, c'est Jésus qui m'inspire pour ça. Jésus qui donne des vraies pistes sur la prière. On voit par exemple dans Luc 18, lorsqu'il veut donner un éclairage sur la justice, il raconte une parabole. Une parabole, c'est une histoire inventée mais qui est lourde de sens. Et il va parler de 2 hommes, d'un pharisien, c'est-à-dire un croyant modèle, entre guillemets, et puis aussi un gars qui travaille aux impôts. Puis les 2 hommes se rendent au temple pour prier. Et puis il est dit dans Luc 18, 11, que le pharisien debout, il priait comme ça, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Puis il a peut-être continué en disant « Merci parce que tu m'as donné de l'expérience avec les années, de la maturité, parce qu'après tant d'années, je suis encore ici, fidèlement au culte, ici à l'église. » Et puis le texte poursuit « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. » Par ordre permanent. Ah non, ça j'ai rajouté moi, mais... Et puis après, il est dit que discrètement dans un coin, au verset 13, le collecteur d'impôts, lui, il se tenait à distance, puis il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Alors il y a 2 exemples de prière, 2 attitudes de cœur, et souvent on met l'accent sur l'attitude, en prenant cette parabole, et il y a de quoi, hein, dans ce cas-là, avec le pharisien qui a prié plein de choses, du genre de prière, quand quelqu'un prie comme ça dans un groupe, c'est une tellement belle prière qu'après vous n'osez même plus prier parce que c'était tellement beau et tout était dit avant que vous allez balbutier peut-être après. Et puis l'autre qui vient juste tel qu'il est devant Dieu, qui reconnaît qu'il a besoin de la grâce, du pardon de Dieu, qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. Mais ce qui m'a frappé, c'est pas seulement le changement d'attitude, mais c'est le résultat différent. Après la prière, Jésus il explique non seulement la différence d'attitude, mais le résultat. Luc 18, 14 nous dit « Je vous le dis, ajouta Jésus, ce collecteur d'impôts était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque sera abaissé
Quiconque s'élève, pardon, sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on prie, ce qui compte, c'est pas dans quel état on arrive devant Dieu, mais c'est comment on en ressort. C'est comment on ressort de ce temps. La prière, c'est vraiment venir devant Dieu comme on est, vrai, tel qu'on est. La prière, c'est être vrai. Devais-tu peut-être notre costume de Superman, Superwoman, super chrétien, super évangéliste, super lecteur de la Bible, super louangeur devant l'Éternel? On peut simplement devenir devant Dieu tel qu'on est, tel qu'on est. Il n'y a pas d'attente de la part de Dieu si ce n'est de nous voir venir dans sa présence. Et c'est là qu'il nous pardonne, qu'il nous justifie, qu'il nous fortifie, qu'il nous relève et qu'il nous exauce pour que son royaume avance. Et Jésus lui-même était vrai quand il priait. Par exemple, quand il prie au Père, il ne lui a pas caché qu'il n'avait pas envie d'aller sur la croix. Il n'avait pas envie de souffrir. Il est dit dans Luc 22, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Il n'a pas caché au Père son état d'âme. Et il est même dit au verset 44 qu'il était tellement saisi d'angoisse qu'il avait de la sueur. C'est comme quand vous avez tout à coup peur, très fort, il avait une sueur, mais c'était tellement fort qu'il y avait même du sang dans la sueur. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à vous d'être en sueur tellement vous êtes angoissé. Et il va comme ça devant le Père. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort de ce temps de prière complètement encouragé, boosté. Il se lève et il va exhorter les disciples qui sont endormis. Il arrive angoissé devant le Père, mais il finit au taquet, en pleine forme. C'est lui qui dit « Mais arrêtez de dormir, vous ne pouvez pas prier, priez !» C'est comme ça qu'il ressort ce temps de prière avec le Père. Et pourtant, il est arrivé vrai, tel qu'il était. Saisi d'angoisse, mais il ressort zélé, zélé. Il est vraiment inspirant. Et d'ailleurs, quand on lit les psaumes, combien de fois David commence le psaume en étant découragé parce qu'il est poursuivi, il doit être mis à mort, et le psaume finit alors qu'il est reconnaissant, rempli de zèle pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment inspirant aussi. La prière, c'est être vrai avant tout, c'est être vrai. Et pour moi, s'il y a un mot qui exprime bien ce que je pense de la prière, et ce n'est pas la définition du dictionnaire biblique, la prière avant tout, c'est un partage. On entre en relation avec Dieu, c'est un échange, c'est une relation. Ce n'est pas juste nous qui listons nos sujets, comme on a vu avant avec le monologue, ou bien dans un groupe où on balance l'un après l'autre, peut-être notre sujet ou notre prière, mais c'est une relation, un partage, un dialogue, comme on l'a vu. Dans Jean 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et ce n'est pas juste Dieu le Père, le Très-Haut qui est là-haut. Puis nous, les petits serviteurs, on lui adresse des requêtes, en espérant que l'une fois ou l'autre, le Père soit attiré par nous, puis qu'il daigne enfin nous répondre une fois. Il a dit « Je vous appelle ami ». C'est une relation. Il nous fait connaître ce qu'il a appris du Père. Il nous a choisis pour ça, comme amis. C'est une personne proche à qui il partage son cœur pour qu'on porte des fruits, il ait mis des fruits durables. C'est ça que produit un échange, un tel échange, une telle relation. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Quand il y a cette amitié, cet échange, quand on reçoit du Père, qu'on y parle, ce dialogue amène l'exaucement. L'intimité, l'amitié avec Dieu, c'est la base de la prière et c'est le terrain de l'exaucement. Je vous appelle ami et je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Matthieu 6, 5 nous dit, Jésus donne le conseil suivant, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, éteins ton attel et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Juste rajouter deux, trois mots, mais sinon c'était quand même la parole de Dieu. Ça, c'était ma version. Ça veut dire qu'il répond, mais un temps de qualité, juste toi et le Seigneur, que ce soit dans ta chambre ou dans la nature, juste toi et le Seigneur. Et j'ai trouvé une anecdote sympa sur Internet. C'est un garçon qui demande un jour à son père, « Papa, quelle est la taille de Dieu ?» Puis le père, il regarde vers le ciel, puis voit un avion. Et puis, il demande à son fils, « C'est quoi la taille de cet avion ?» Et puis le garçon répond, « Il est très petit, je peux à peine le voir. » Ainsi, le père l'emmène à l'aéroport, et alors qu'il se trouve au pied d'un avion, il redemanda, « Maintenant, quelle est la taille de cet avion ?» Puis il dit, « Oh, il est énorme !» Alors le père lui explique, « La taille de Dieu dépend si tu es loin ou si tu es près de lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme dans ta vie. Si tu veux voir Dieu grand dans ta vie, développe une intimité avec lui. »
Wow.
Plus on passe du temps avec Dieu, en amitié, en partage, plus on aura son cœur, et plus on va voir comme il voit, plus on va voir grand, bien plus grand que nos besoins, bien plus grand que nos sujets de prière. Mais c'est surtout aussi une façon de se placer avec lui dans les lieux célestes, assis avec Christ. On est connecté à Dieu, il nous parle, on lui parle. Colossiens 3, 1 nous dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut ». Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et dans ce partage, dans ce dialogue, en regardant à Dieu, en le louant, avant même de lister nos besoins, on s'approche de ce Jésus qui est assis à la droite du Père. Et ça va même plus loin lorsque Paul dit dans Éphésiens 2, 6, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il nous a fait asseoir avec lui. On vient vers Dieu tel qu'on est, peut-être pécheur ou blessé ou découragé, je ne sais pas. Il nous lave, il nous fortifie, il nous motive, il nous traite comme son ami, il nous partage son cœur et on est carrément assis avec lui dans le ciel. C'est ça que produit la prière. C'est tellement plus qu'un monologue, c'est une position de foi. La prière, c'est une position d'autorité. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il explique comment prier à ses disciples, il leur dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc de cette relation, de cette amitié, quand on est assis avec Christ, qui nous partage son cœur, ce qu'on va voir dans le ciel, les promesses, on va vouloir que cette volonté qui est au ciel, elle s'accomplisse aussi sur la terre. C'est ça la prière. On peut avoir l'optique du ciel, l'optique de Dieu pour que ça se change, puis que ça s'accomplisse ici. Et j'aimerais dire que la prière, c'est le levier. La prière, c'est le levier, tu peux encore cliquer une fois, pour amener le règne de Dieu sur la terre. Ce n'est pas juste un signal qu'on envoie depuis la terre au ciel, comme une fusée de détresse, où on est là, puis on envoie une fusée de détresse en espérant que le bon Dieu il va bien le voir. « Eh Seigneur, réponds à ma prière !» C'est tellement ça parfois. Et j'entendais il y a quelque temps, on était dans une rencontre leadership en Angleterre, Chris Hodges qui disait « La prière devrait être notre première réponse et pas notre dernier recours. » Pas notre dernier recours, mais notre première réponse. Alors comme on l'a vu, même si notre moment de prière commence des fois très terre à terre, peut-être même dans le découragement, à un moment donné, on va rentrer dans ce dialogue et on va être encouragé par le Seigneur, dans cette présence de notre ami le Saint-Esprit. Et c'est depuis là-haut qu'on va prier, qu'on va voir les choses, qu'on va les déclarer, qu'on va les proclamer, que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Comme Dieu, avec qui je suis assis, le montre et le désire. Je désire que ça se passe ici, dans le concret. Je le proclame, je le désire, je le prie et je le dis. Et en ayant ressenti ce qui était juste dans la présence de Dieu, en ayant ressenti ce que Dieu voit, comme il voit, ce qu'il ressent, à un moment donné, je vais le prier et je vais le reprier jusqu'à ce que cela se passe. La prière, c'est une démarche, c'est une course, c'est quelque chose dans lequel on s'investit jusqu'à l'exaucement. Et moi, j'aime beaucoup l'image des béliers pour enfoncer une porte d'un château fort. Il y avait ces vieux béliers. On utilise même ça encore. La police, aujourd'hui, ils utilisent encore ça pour enfoncer des portes. Parfois, il faut plus qu'un coup pour que la porte, elle lâche. Il faut deux coups. Des fois, il faut 10 coups. Il faut y aller jusqu'à que ça lâche. Jusqu'à que ça lâche. Et la Bible nous dit dans Jacques 5, 16 que la prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. À un moment donné, on s'investit dedans. On insiste, il y a une répétition, une focalisation. Et la prière agissante, energeo, c'est une prière fervente, active, dans laquelle on s'implique, elle est efficace. Elle est efficace. Ce n'est pas juste des phrases qu'on dit à Dieu. Puis ben voilà, c'est ça la prière. Quand on parle à Dieu, c'est la prière. D'un côté, oui, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est habiter de la présence de Dieu, de sa volonté. On va proclamer comme ce bélier devant une porte fermée, que la porte s'ouvre, que la volonté de Dieu qui est au ciel, elle s'accomplisse ici sur la terre. Et Jacques nous dit que c'est très efficace, cette prière. Luc nous dit dans Luc 6, 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passa toute la nuit. » Jésus, il a prié toute la nuit. Pourtant, des fois, on se dit, mais Jésus, il lui suffisait de prier un coup pour que ça se passe, pour qu'il soit exaucé. Pourquoi il a prié toute la nuit? Ce n'est pas parce qu'il avait une liste longue comme le bras de sujets de prière, mais il a persévéré. Il avait besoin d'une percée. Il avait besoin que le Père lui parle. Il avait besoin d'être convaincu. Il avait besoin de prier. Il s'est engagé dans une prière fervente, agissante. Et d'ailleurs, suite à ce moment de prière, il a choisi les 12 qui allaient changer le monde. De ce temps-là qu'allait changer le monde. C'est comme quand on creuse un puits. On creuse, on persévère jusqu'à qu'on trouve de l'eau. Sinon, ça n'a pas de sens. On insiste. Puis des fois, on dit, on demande à quelqu'un, t'as déjà prié pour tel sujet? Puis il dit, oui, mais j'ai déjà prié, mais Dieu, il n'a pas répondu. Mais t'as peut-être prié 2 fois, 3 fois. Combien de fois t'as creusé, insisté? La prière, c'est une implication, on persévère, on cherche, on creuse, on insiste, jusqu'à ce que la porte cède avec le bélier, jusqu'à qu'on trouve de l'eau, jusqu'à qu'elle vienne au fond du puits. Ça sert à quoi de s'arrêter à mi-chemin? Vous avez peut-être déjà vu cette image sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas abandonner juste avant le dernier coup de pioche. Ça serait trop bête de s'arrêter juste avant la fin. Et Hébreux 10, 36 nous dit « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. » Puis le Proverbe 18, 9 qui fait mal aux oreilles, pouvez-vous les boucher si vous ne voulez pas entendre, qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et moi, je pense que c'est pareil pour le relâchement de la prière. À un moment donné, il faut s'investir, il faut continuer, persévérer dans la prière pour construire, pour que le plan de Dieu se manifeste. Et Daniel Colenda a dit la chose suivante, « La seule chose qui est pire que de ne pas prier, c'est de prier sans s'attendre à l'exaucement. » C'est de prier sans s'attendre à l'exaucement. Et je crois que la clé, et ce qui fait la différence dans la prière, c'est vraiment de persévérer jusqu'au bout. C'est une notion que Dieu veut mettre en nous. Et moi, quand j'étais enfant, je me souviens, on priait assez souvent en famille, mais on avait une connaissance, un jeune, notre âge, un enfant qui s'appelait Marc, qui avait une leucémie. Et je crois que chaque fois qu'on priait, ou chaque fois que je priais le soir avec, je sais pas, mon papa ou ma maman, on priait chaque fois pour ce Marc. Es-tu guéri encore ce Marc? Ça a duré des mois, voire même des années. C'était vraiment c'était toujours dans nos prières. On priait pas que pour ça, mais c'était toujours là. C'était toujours là. Finalement, ça a duré longtemps, mais il n'y a pas eu de résultat immédiat. On prie sans avoir forcément des nouvelles. Mais ce garçon, il a été guéri. D'autres avaient évidemment prié, ce n'était pas juste nos prières. Mais moi, ça m'a marqué sur l'efficacité de la prière. On prie à un moment donné, on creuse sans tout de suite voir de l'eau. Mais on sait à un moment donné que Dieu va agir. Et je crois que la clé pour l'exaucement, ce n'est pas juste des prières les plus belles, les plus inspirées, mais c'est de persévérer encore et encore, encore. Et c'est Chris Vallotton qui disait que de petites clés ouvre de grandes portes. Et je crois que la prière, c'est comme une petite clé, mais il faut persévérer. La prière est puissante. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui montrent ce côté de persévérer dans la prière. Et j'ai juste en cité 3 ce soir. Tout d'abord, l'histoire d'une étrangère qui s'approche de Jésus. Elle vient vers Jésus, elle prie. Elle le supplie d'agir parce que sa fille est tourmentée d'un mauvais esprit. Elle va très mal. On voit ça dans Matthieu 15, 22. Mais qu'est-ce que fait Jésus ? Alors que cette femme le prie d'agir. On voit dans Matthieu 15, 23 qu'il ne répond même pas. Il ne répond pas un mot. Il n'y a pas d'exaucement, même pas de réponse. Puis l'histoire aurait pu s'arrêter là, comme parfois dans nos vies. On se dit, ben voilà, Dieu, il n'a pas répondu. Mais la femme, elle aurait pu partir en se disant que la prière, ça ne marche pas. Mais cette femme, elle insiste. Et pas juste poliment, mais elle crie. À tel point que les disciples disent à Jésus dans Matthieu 15, 23, « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Alors Jésus daigne lui répondre enfin. Mais la réponse qu'il dit à cette femme, elle est négative. Dans Matthieu 15, 24, il est dit, Jésus lui répond, « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des brebis perdues. » Jésus lui répond que son mandat, c'est d'aller vers les gens d'Israël, mais pas pour une étrangère comme elle. « C'est une fin de non-recevoir, je ne suis pas venu pour toi maintenant, j'ai d'autres priorités. » Puis elle va encore insister, la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant « Mais Seigneur, aide-moi » Et là, la réponse de Jésus, elle est cinglante. Il dit, Jésus répondit au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Plus clair que ça comme réponse négative, c'est difficile. Et ça vient de Jésus. « Je ne suis pas venu pour toi premièrement, mais laisse la nourriture pour les enfants d'Israël. » Mais elle est tenace, elle persévère et elle insiste encore dans sa prière. « C'est vrai, maître, » dit-elle. « Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et cette ténacité, cette audace va épater Jésus. Et il répond, « Waouh, que ta foi est grande, Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même, instantanément. Elle a insisté face à Jésus, insisté. Il fallait le faire au vu des réponses. Ce n'était pas juste des réponses d'un ministère qui n'a pas le temps. C'est Jésus lui-même qui était négatif. Elle n'a pas lâché, il y avait de quoi pourtant. Elle n'a pas lâché jusqu'à l'exaucement. Un autre passage qui est parlant dans l'Ancien Testament, il est dit dans 1 Roi 18 que ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus plu, qu'il n'avait pas plu. Et le Seigneur adresse sa parole au prophète Élie et lui dit « Va te présenter devant le roi Akab, car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. » Élie, il a une parole prophétique qu'enfin il va pleuvoir et il va le dire au roi. Il fallait qu'il soit sûr de sa parole prophétique parce que la femme d'Akab, elle aimait bien, elle faisait tuer les prophètes. Donc, en plus, ils étaient convaincus que la sécheresse, elle venait, la malédiction venait à cause d'Élie, donc il n'allait pas forcément être bien reçu. Mais Élie dit au roi, « J'entends le bruit de la pluie. » Prophétiquement, il entend le bruit de la pluie. « Maintenant, tu peux aller manger et boire. » Il entend le bruit de la pluie, puis il lui dit, « Tu peux déstresser, tu peux commencer à manger dans tes réserves, à boire, c'est bon. Il n'y a plus besoin de garder les choses de côté. La pluie, elle vient. Tu peux te relaxer. » Et le roi Akab va manger et boire. Puis Élie monte sur le mont Carmel et là, il est mis qu'il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Alors, ce n'était pas un cours de Pilate, hein, mais c'était un temps de prière fervent, le visage entre les genoux. Et là, il y avait intérêt que la parole s'accomplisse parce que sinon... Et là, on imagine l'esprit de prière d'Élie. Je pense qu'il a prié plus que 3 minutes. Il a dit, « Seigneur, j'ai entendu la pluie, mais maintenant, fais que ça vienne. » Il faut que ça vienne. Et là, il dit à son serviteur, « Monte et va regarder vers la mer. » Il veut savoir si la pluie arrive enfin. Et le serviteur, il monte, il regarde, et il n'y a rien, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, « Mais retourne, retourne sur la montagne. » Et à chaque fois, le serviteur monte sur la montagne, c'était sûrement pas un petit monticule de 20 mètres, il monte au sommet, rien, il n'y a rien. Il remonte, toujours rien. Élie ne lâche pas. Et j'imagine que le serviteur, il a dû râler à un moment donné. Hein. Il se dirait, tu vas me faire monter combien de fois là-haut? Mais la 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. Il y a une sécheresse depuis 3 ans. Et là, il y a un mini nuage grand comme un poing. C'est pas ça qui va arroser la terre. Et parfois, quand on prie, on voit un début de réponse, un léger mieux. On voit que c'est pas la réponse qu'on attendait. C'est un petit nuage, mais ce n'est pas la réponse attendue. Tu pries pour un malade, puis ça va juste un peu mieux, mais toi tu voulais la guérison. Ou tu pries pour tes finances, ça va juste un tout petit peu mieux, mais toi tu voulais gagner à l'euro-million. Non, mais, non, tu voulais peut-être juste que ça marche. Et j'aimerais dire, mais ne méprisons pas le début des réponses, mais insistons. Élie, il dit, monte et va dire au roi Akab, attelle tes chevaux, descends avant que la pluie t'arrête. Il est convaincu que ce petit nuage, il va amener des trombes d'eau. Il a une foi de dingue. Il aurait pu se lamenter de cette demi-réponse, ou même de ce tiers, quart de réponse, en voyant ce petit nuage, mais il est saisi de foi. Il est convaincu que c'est le début de l'exaucement. Il va pas juste attendre, il va s'impliquer, il va s'avancer. Et il est dit ensuite au verset 45, « Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. » Et Élie est rempli de force. Et là, on peut lire dans ce texte que plusieurs peut-être connaissent depuis longtemps, mais si on se met à la place d'Élie, qui prie, qui supplie Dieu, à genoux pour qu'il envoie la pluie, puis qu'il n'y a toujours rien, et que le serviteur monte, toujours rien, il monte, toujours rien, il remonte, toujours rien, mais il a persévéré malgré les non-réponses, malgré les réponses négatives. Et il a insisté, il croyait à cette impression prophétique, il avait entendu la pluie, il était tenace, et au premier signe, il a su que c'était bon. C'était une question de vie ou de mort, pas juste parce qu'il se trompait, mais pour le peuple, il fallait qu'il y ait cette eau. Il fallait persévérer jusqu'au bout. Et le troisième exemple qui est frappant, c'est celui de Naaman, c'est le chef de l'armée de Syrie qui est frappé de la lèpre. Il va voir un homme de Dieu, le prophète Élisée. Et là, il lui dit d'aller se tremper 7 fois dans le fleuve. Et il y va 1 fois, mais il n'est pas guéri. Il y va 2 fois, il n'est pas guéri. Il y va 3 fois, rien. 4, 5, 6 fois. La 7e fois, il ressort guéri. Il a été jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se serait passé si Naaman s'était trempé seulement 6 fois et pas 7? Rien. Il a dû aller jusqu'au bout. Alors parfois, on n'a pas toujours des réponses. Je n'ai pas toutes les réponses aux exaucements qui ne se produisent pas. Ce n'est pas des réponses toutes faciles que je suis en train de dire ce soir. Mais pour les prières qui sont encore en cours, persévérons jusqu'au bout. Des fois, on se dit, ça n'a pas de sens, je me suis déjà trempé 5 fois dans ce fleuve. J'ai déjà prié 5 fois, j'ai déjà creusé, je suis déjà monté à la montagne 6 fois. Et la 7e fois, on voit un nuage rikiki. Mais ce n'est pas ça, Seigneur, que je te demandais. Et pourtant, la vie de prière efficace, c'est celle qui est insistante, tenace, persévérante. On tient son os et on ne lâche pas. C'est en tenant bon dans la durée qu'on fait la différence. Et c'est là qu'on a le titre complet de mon message. Prier jusqu'à quand? Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. C'est en insistant, en tenant bon jusqu'à la fin, qu'on va arracher l'exaucement. Alors c'est à la manière de Dieu, c'est pas toujours la façon dont on s'imagine qu'il va répondre. Mais plus on passe du temps dans la prière avec lui, et que c'est pas juste un monologue, finalement l'exaucement va correspondre tant au cœur de Dieu qu'au mien. Dieu dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Ce n'est pas le papa qui se prend tellement au jeu quand il joue à cache-cache avec ses enfants que finalement, ses enfants, ils ne le trouvent jamais. Si vous avez eu des enfants, vous faites exprès que vous dépassiez un petit peu du canapé pour que finalement, votre tout-petit vous trouve. Et moi, je suis convaincu que Dieu, il se laisse trouver par ceux qu'il cherche. Dieu, il raffole se laisser trouver. Il aime nous voir chercher, mais il aime surtout se laisser trouver. Il aime davantage nous exaucer que de nous voir creuser. Il est bon. Mais il faut quand même chercher. Comme dit Ésaïe 55, 6, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. » Alors, on vient de voir qu'il y a cet aspect de persévérance, de creuser. Mais la prière, ce n'est pas juste ça, parce que ce n'est pas si intéressant. Mais on a vu dans les exemples que finalement, cette femme étrangère, syrophénicienne, elle n'a pas juste eu les miettes, mais que sa fille a été guérie. On a vu que finalement, du temps d'Élie, la pluie est venue, ce petit nuage a amené la fin de sécheresse. On a vu que Naaman, il a été guéri d'une maladie incurable. L'exaucement, ça peut être un résultat immédiat, un miracle, mais souvent, j'ai vu, souvent, c'est plutôt le fruit de la persévérance, de l'insistance, de ne pas lâcher. C'est le résultat de l'opiniâtreté. Opiniâtre, ce n'est pas un mot bizarre que Laurent m'a demandé de placer comme challenge d'un mot dans mon discours, non. Mais opiniâtre, ça veut dire acharné, être obstiné, être persévérant, qui ne cède pas, que rien n'arrête, voire même entêté. Et c'est ça que Dieu désire, qu'on soit opiniâtre. Et je suis convaincu que c'est une facette de l'ADN de Dieu lui-même aussi. Dieu, il est acharné, obstiné à accomplir ses promesses pour ta vie, pour nos vies. Il ne cède pas, rien ne l'arrête, le Seigneur. Ça, c'est mon Dieu, ça, c'est sa nature. Il est des fois même entêté pour souhaiter le meilleur pour ses enfants, le bonheur. Et plus je passe du temps avec mon Seigneur, plus je vais aussi avoir cet ADN, cette opiniâtreté en moi qui va amener l'exaucement. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'on peut prier « Seigneur, envoie le réveil ». Mais si je reste dans ma chambre de prière, tout le temps, je ne suis pas sûr que je vais forcément voir beaucoup de fruits. On peut prier « Seigneur, change mon conjoint ». Mais si moi-même, je reste comme je suis, je peux peut-être le prier longtemps. On peut prier « Seigneur, sauve ma famille ». Mais si j'aborde jamais le sujet peut-être du Seigneur au bon moment, ben, ils ne vont peut-être jamais entendre parler de Dieu. On peut prier « Seigneur, change tous ces politiciens ». Mais que jamais, peut-être que je me suis impliqué dans un domaine et puis que ça fait 20 ans que je n'ai plus voté, je ne suis peut-être pas crédible. On peut prier pour sa santé, d'être moins malade, d'être moins grippé. Mais si je ne me suis jamais demandé qu'est-ce qui me rendrait plus fort, ou dans ma nourriture, ou dans ma façon de m'habiller, il y a peut-être des choses à adapter. Et ce que j'ai envie de dire ce soir, après tout ce qu'on a vu, c'est que c'est inutile de prier si je ne suis pas prêt à faire partie de l'exaucement, si je ne suis pas prêt aussi moi-même à faire partie de l'exaucement. Et je me souviens, quand j'ai commencé l'école biblique il y a 25 ans, j'ai découvert une dimension tellement nouvelle, la présence de Dieu. Quand je raconte ça, des fois, je me dis, je me suis cru au paradis. Par rapport à l'Église, de ce qu'on vivait, c'était tellement une dimension nouvelle. Puis j'ai découvert une louange vraiment extraordinaire. Et notre Église avait d'autres points forts que ça, mais pas forcément cette présence et cette louange. Puis je me souviens avoir dit, mais Seigneur, tu vois comme c'est la louange ici, puis ça, puis c'est pas comme ça dans l'Église. Et Dieu m'a dit, fais que ça change. Fais que ça change. C'est pas juste de prier, mais à un moment donné, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer soi-même pour que ça change. Et sur les années, Dieu a répondu au-delà de mes espérances. On a eu un groupe de louanges qui a commencé à demander à gauche, à droite. On allait en France, en Angleterre, on a fait un album. Dieu répond aux prières, mais souvent, c'est à nous de nous impliquer. C'est à nous de nous impliquer. Et ça, pour ça, ça va au-delà du monologue. Il faut être prêt à s'engager soi-même, à s'impliquer, à payer le prix aussi pour que l'exaucement puisse se faire. Dieu, il pourrait toujours faire ça sans nous. Il pourrait sauver l'humanité en apparaissant dans le ciel. Il pourrait tout faire sans nous. Il a déjà créé la terre sans nous. Il a juste parlé, puis les choses sont venues. Il n'aurait pas besoin de nous. Mais il a choisi de faire avec nous. Et pour moi, la prière, c'est faire équipe avec Dieu pour accomplir ses plans. Pour moi, c'est ça la définition partielle, mais ma définition de la prière, c'est faire équipe avec Dieu, proclamer ses choses pour accomplir ses plans. Et c'est phénoménal de voir que Dieu a choisi de dépendre de l'homme pour accomplir ses voies. Et ça implique que l'homme est aussi dépendant de Dieu pour accomplir ses rêves. Et je crois que l'indispensable, c'est cette rencontre avec Dieu, de vivre ensemble, de partager, d'être à son écoute, de dire les choses qu'on voit dans le cœur de Dieu, qu'on voit au ciel, et de les proclamer ici. Et je propose qu'on puisse se lever peut-être, qu'on peut prendre le piano, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse se laisser encourager ce soir par le Saint-Esprit, comme pour monter d'un cran dans notre vie de prière. On est en marche. Moi, je dis toujours, je suis content de ce que je suis plus avancé qu'il y a 2 ans, mais j'espère vraiment que dans 2 ans, je suis plus avancé qu'aujourd'hui dans ma vie de prière. J'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et j'aimerais vraiment prier pour que Dieu transforme notre vie de prière et nous amène à nous donner les moyens de prendre du temps dans sa présence pour avoir cette relation, ce dialogue, chercher Dieu pour voir comme il voit et proclamer avec persévérance sa volonté sur terre, avec persévérance. Alors merci Seigneur pour ta présence, Saint-Esprit, ce soir, au milieu de nous ici. Et je te prie Seigneur, viens réveiller un esprit de prière, un feu qui s'installe. Pas juste une prière comme une réaction à une situation, mais un feu qui s'installe en nous, un désir où on prie pour le réveil, on prie pour le salut des âmes, on prie pour que tu agisses, on prie pour des percées et on prie jusqu'à l'exaucement. On ne s'arrête pas. Seigneur, encourage, si on a baissé les bras, encourage, on ne veut pas juste baisser nos standards pour les adapter à ce qu'on voit. Mais Seigneur, on veut continuer de persévérer, d'aller de l'avant. On veut continuer de prier, de crier à toi, Seigneur. On veut continuer d'être à ton écoute. Et je te prie que tu libères la révélation pour que, quand on te prie, Seigneur, ce n'est pas nous qui parlons le 100% du temps, mais que tu nous parles, qu'on puisse entendre aussi ta voix, qu'on puisse entendre tes désirs, qu'on puisse connaître les désirs de ton cœur et qu'on puisse les proclamer, qu'on puisse les déclarer, qu'on puisse les prier jusqu'à ce qu'ils arrive, Seigneur. Donne en nous ce feu vraiment d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous vraiment, Seigneur, d'aller plus loin. Oh Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir ce feu en nous. Alléluia. Et en priant pour ce message, j'avais vraiment entendu cette parole du Seigneur pour l'Église ici qui disait, mais encourage-les à ne rien lâcher, à continuer, à puiser, à ne pas s'arrêter avant d'avoir percé. C'est dans la durée que l'on a une percée. C'est dans la durée qu'on a une percée. J'aimerais vraiment que ça soit un message d'encouragement pour l'Église, pas juste pour votre vie de prière, mais aussi pour l'Église, de continuer, de percer, d'aller, de prier, d'aller de l'avant. Oh, viens Seigneur ce soir, je te prie que tu viennes donner un souffle nouveau, que tu viennes encourager, Seigneur, là où peut-être on s'y est fait, finalement, on s'y fait à comme c'est. Et je te prie que pour les différents sujets de prière, les différents besoins dans la vie de chacun, mais aussi, Seigneur, les désirs de ton cœur pour cette Église. Seigneur, il y a un encouragement, un zèle nouveau pour continuer d'aller de l'avant, continuer de prier, continuer de crier à toi, continuer d'y croire, continuer de le déclarer, parce que c'est un feu qui vient de toi. Oh, viens Seigneur, touche. Et je crois que vraiment Dieu veut vraiment toucher plusieurs qui sont comme fait mordre par un serpent du découragement. Et c'est comme le venin, il est là, c'était pas mortel, vous êtes toujours là, vous êtes toujours chrétien, mais c'est comme si ça enlève des forces. Et il y a comme le découragement qui est là. Et j'aimerais maintenant prendre autorité, sois libéré maintenant au nom de Jésus, cette puissance du découragement dans ta vie, de voir les choses négativement ou de voir les non-réponses. Dieu veut que tu puisses croire à ce petit nuage qui est là et continuer de prier pour que la pluie vienne en abondance. Sois encouragé ce soir au nom de Jésus. Reçois ce zèle, cet esprit d'encouragement et de foi qui vient du Seigneur. C'est plus que des mots que je proclame, mais que le Saint-Esprit vienne en toi et te donne un zèle nouveau pour la prière, un zèle nouveau dans la foi d'y croire. Et sois libéré maintenant du découragement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et viens toucher, Seigneur. Toucher ma vie et la plupart qui sont touchés par ce message. Viens donner un renouveau dans la vie de prière. Viens donner un renouveau, un zèle nouveau dans la vie de prière. Oh, viens Seigneur. Et j'ai cette pensée avant quand on était dans la louange que Dieu voulait comme élargir les épaules. Pas juste parce que vous allez commencer de faire du fitness, mais une autorité nouvelle. Comme pouvoir porter plus. Et je voyais des épaules qui s'élargissaient. C'est comme un vêtement étriqué où Dieu veut élargir pour que tu puisses porter comme plus de choses. Et Dieu veut renouveler une autorité plus grande dans ta vie de prière pour que tu puisses prier et déclarer des choses encore plus grandes. Dieu veut élargir tes épaules. Alléluia. Viens, Seigneur, continue de parler, de toucher.
Alors qu'on priait pour ce soir, j'ai vraiment reçu comme si tu étais là et que tu priais. Tu priais, puis tu commençais à voir le résultat, tu commençais à voir le petit nuage. Puis tu continuais, puis ça venait jamais. Ça venait jamais, puis tu étais là, ouais, mais Seigneur, c'est cool, mais c'est quand? C'est quand que la totalité arrive? C'est quand que l'averse arrive? Et j'ai vraiment vu Dieu qui était là, qui te voyait, qui voyait ton cœur, qui disait, vas-y, viens, persévère. Vas-y, viens, persévère. Persévère parce que ça va arriver. Persévère parce que je vais faire que ce petit nuage se transforme en averse. Vas-y, persévère.
Alléluia. Je crois que le Seigneur aimerait aussi dire à plusieurs qu'il a vu tes larmes. C'est pas que t'as pas persévéré, mais c'est comme si t'as jamais vu. Et Dieu, il te dit, mais tu peux venir devant moi tel que tu es. Mais sois encouragé ce soir d'y croire encore, comme cette image de la pioche. Peut-être que tu as pioché, il manque peut-être plus grand-chose, mais sois renouvelé dans la foi. Je souffre avec toi. J'ai souffert. J'étais à l'agonie. Je comprends ton cœur, mais continue d'y croire. Continue de prier. Ne lâche pas. Et j'ai juste cette pensée, je crois que c'est juste de le dire, dans notre église, il y a une femme, pendant 30 ans, elle a prié, tout le temps, pour son mari. Et plus elle priait, moins il voulait en savoir de la foi. Et il y a peu de temps, je ne sais pas, il y a une année, deux ans, il s'est converti. Après 30 ans, elle a continué d'y croire. Et j'aimerais te dire, continue d'y croire, et sois touché puissamment dans tout ton être intérieur. Alléluia, Alléluia.